matin, là, j'en ai rien à cirer, moi, de ça, là, honnêtement, là. C'est sûrement des dames qui ont noté ça, j'en suis presque persuadé.
Merci beaucoup, Martin. Merci infiniment. Il y a un auditeur qui écrit, auditrice, les femmes ne sont jamais correctes. On blâme Pauline Marois pour ses bijoux et Catherine Dorion pour ses cotons ont été misères. Là-dessus, on s'entend, là. Lorsqu'on est une femme en politique ou lorsqu'on est une femme qui occupe une fonction de nature publique, c'est toujours beaucoup plus difficile parce que le public est plus exigeant quant à l'image de la femme par rapport à celle de l'homme. Là, je parle de la politique. Je vais me limiter en fait à la politique parce que c'est un secteur que je connais bien, moi-même l'ayant vécu. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour les femmes, le double standard. Il y a maintenant un autre auditeur qui est là, Gabriel. Allô, Gabriel.
Allô, madame. Vous allez bien?
Très bien. Très bien, Gabriel. Merci. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet?
Ben, moi, je pense l'info de bas. En fait, comme l'a dit l'autre auditeur, l'habit ne fait pas le moine. Et on a jugé la personne par rapport à ses compétences, à ce qu'il a à faire. Bon, disons, même si elle portait des godasses, est-ce que cela aurait enlevé la misère des gens qui sont dans le logement social? Je pense pas. Pourtant, au contraire, je penserais que la carrière politique, c'est, comment dire, cursus honorum. C'est la carrière des honneurs. C'est aussi l'image des hommes politiques canadiens. Les autres nous regardent, les autres regardent le Canada, mais quel genre de ministre avant nous? Moi, je pense que c'est l'élégance, c'est tout est communication. Elle communique à travers ce qu'elle porte, et si c'est une personne décente qui est toujours bien habillée, pourquoi changerait-elle ses habitudes par rapport à ce que disent les gens? C'est vraiment un sujet subjectif. Donc, l'essentiel est d'aller par rapport à ce qu'on peut critiquer sur ses compétences et sur son rendu du travail et non par rapport à ses choix vestimentaires ou autre chose. Donc, c'est vraiment un faux débat.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Gabriel. Un faux débat, j'aime bien votre expression. Ginette nous écrit, Madame Normandeau, non, on ne porte pas tout en toutes circonstances, nous écrit-elle. Le problème, ce ne sont pas les souliers. C'est une couche de plus au comportement méprisant et bourgeois dans une circonstance où être humble et empathique envers elle se fait envers ce qu'elle venait annoncer. Effectivement, là-dessus, je partage votre point de vue. Je le disais un peu plus tôt, avec la politique vient l'exercice d'une certaine humilité et assurément de la sensibilité. Et là, l'image qu'elle projette, puis je suis convaincue que c'est une bonne personne, France-Hélène Duranceau, là. Mais on a dit souvent d'elle, c'est une jeune ministre qui a peu d'expérience, c'est vrai, mais là, ça fait 2 ans. Alors, à un moment donné, après 2 ans, t'es censé connaître ton métier, mais elle se place dans des situations la desservent, qui desservent son image. Alors, là-dessus, elle aurait intérêt peut-être à écouter davantage son entourage. Un petit conseil de temps en temps, là, ça fait pas de bien. Il y a Hakim qui est là. Bonjour, Hakim.
Bonjour, madame, ça va bien?
Très bien, très bien. Qu'avez-vous à dire sur le sujet?
Bon, en fait, moi, je suis contre. Je n'ai rien contre la ministre. Que ce soit pour une femme ou pour un homme ministre, je suis désolé, les apparences sont très importantes. Quand on s'habille d'une façon, on met des chaussures à 1 200 $ qui représentent un loyer. Pour moi, je parle pour moi, qui me représente un loyer que je paye chaque mois. Et un ministre qui se présente pour parler de logement social avec des chaussures de 1 200 $, je suis désolé, il faut faire attention à tout. Moi, je suis contre ça et je suis contre aussi qu'un ministre qui porte un costume à 5 000 $, il me parle aussi de logement social, je suis désolé. Ils sont loin de la vérité et moi, je suis contre ça. Merci beaucoup.
Merci. Merci, Hakim. Excellente journée à vous. Je termine avec 2 commentaires qui sont opposés, mais quand même qui traduisent bien votre pensée ce matin sur le sujet. Il y a Lucie qui nous écrit, si la ministre s'était habillée de manière plus décontractée, on l'aurait condamnée de vouloir caricaturer les gens démunis. Elle a mis ses chaussures, point final. Et autre réaction, mon conjoint et moi avons des moyens financiers plus élevés que ceux de nos amis. Nous avons cette sensibilité envers eux. Si nous allons dans un gala avec des invités qui ont des moyens semblables aux nôtres, nous nous permettons un peu plus de luxe, mais la sobriété est toujours de mise. Et je termine en disant, décourageant, frustrant qu'en 2024, on juge une ministre pour son habillement. Alors en fait, c'est pas de juger. Il y a des nuances là, que de toute évidence certaines d'entre vous n'avaient pas saisies. La nuance là, c'est est-ce qu'on peut en toutes circonstances, lorsqu'on est ministre, porter un vêtement ou une paire de chaussures en fait qui peut donner l'impression d'envoyer un message contraire à l'objectif qui est recherché au départ. Enfin, mais je vous laisse là-dessus. Vous allez pouvoir, bien sûr, continuer vos réflexions sur le sujet. Après la pause, je vous invite sur un tout autre sentier, à celui des beaux gazons verts. Il y a la Fondation David Suzuki qui part en croisade et tente de nous convaincre de changer nos habitudes en matière de gestion de notre belle pelouse, de nos beaux gazons. Et on se demande à quoi va ressembler Le gazon du futur. À tout de suite.
Le menu du midi. Votre émission d'information.
Pourquoi on ne prendrait pas cette année-là de secondaire 1 de révision, puis qu'on ne ferait pas de la matière vue normalement en secondaire 2, puis juste décaler, puis comme ça, on pourrait garder nos 50 secondaires, puis passer directement à l'université.
On pensait que ça serait le fun, Facebook. Puis on se lance là-dedans sans trop réfléchir. Puis là, après, on s'aperçoit que sur Facebook, il y a de l'intimidation, il y a de la fraude, il y a des disputes, il y a des complots. C'était le fun, Facebook, au début, hein? Ben là, ça l'a encore, mais ça l'est un peu moins.
Le meilleur russe du repêchage, Ivan Demidov, son contrat dans la KHL vient à échéance en 24-25.
Okay,
donc, l'été prochain. Donc, c'est comme si on repêchait un joueur de la Ligue canadienne de hockey. Mettons que le Canadien repêchait Caden Lidstrom et qu'on le retournait dans les juniors, ben, il serait pas disponible avant la saison 25-26.
Okay.
C'est la même chose pour Ivan Demidov. Puis, en plus, il a exprimé son désir de venir jouer en Amérique du Nord. Ça ne restera pas une foire à la maison. À TV.
C'est à ça que tu parlais, là.
Du lundi au vendredi dès midi.
Sensation Plus, des articles coquins pour pimenter votre quotidien. Découvrez tous nos produits érotiques pour couples dédiés aux amoureux et à la sensualité à deux. Huile, jouets, lingerie et plus. Partagez le plaisir. Sensationplus.com. Livraison rapide et discrète.
C'est maintenant l'heure de trouver le meilleur endroit pour faire l'achat d'un produit électronique, informatique ou photographique. Tournez la roue chanceuse. La roue s'arrête sur... Le Centre Hi-Fi de Rivière-du-Loup. Vous gagnez le gros lot!
Je suis tellement contente d'aller au Centre Hi-Fi. C'est un magasin local. Ils ont de bons produits et ils donnent de bons conseils. En plus, ils font la livraison et l'installation.
Tout le monde est gagnant au Centre Hi-Fi Rivière-du-Loup.
Réfrigération GRL vous offre ses services en installation, réparation, l'entretien de vos systèmes de réfrigération commerciale, climatiseurs et thermopompes. Réfrigération GRL vous invite à profiter de notre promotion sur les produits Mitsubishi électriques. Contactez-nous dès maintenant pour une soumission et sauvez sur l'installation de votre thermopompe. Pour tout besoin réfrigération, faites confiance à notre équipe d'expérience qui couvre le territoire de Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup. Réfrigération GRL, 220 Avenue du Havre, Rimouski, 418-724-60 17-11.
Vous questionnez sur votre avenir professionnel? Vous souhaitez vous réaliser dans un emploi ou un projet qui fait sens à vos yeux? Saviez-vous que l'organisme La Sphère offre une multitude de services gratuits et confidentiels pour répondre à vos besoins? Peu importe votre âge, on est là pour vous aider à y voir plus clair. Planifiez dès maintenant une rencontre gratuite avec notre équipe. Pour en savoir plus, visitez le www.lasphèredelemploi.ca. La Sphère, la fierté de choisir ça.
Emploi. Vous aimez les Ram, les Dodge, les Jeep? Michaud Auto, un concessionnaire familial solide en affaires depuis 105 ans, est à la recherche d'un technicien en mécanique automobile. Les meilleures conditions dans le marché à Rimouski. Belle ambiance de travail en boni. Informez-vous de notre prime à l'embauche. Vous nous référez un candidat, on vous récompense. Viens nous rencontrer au 380 boulevard Arthur Buis Est ou envoie ton CV à gtremblay@commercialmichaudauto.ca.
Ne manquez pas la toute nouvelle chronique de Sébastien Desjardins de H. Grégoire Rimouski. Démystifions la vente de véhicules usagés
et tout ce qui l'entoure. Il a de bons conseils pour vous. Soyez au rendez-vous tous les vendredis à 9h15. Une présentation de H. Grégoire Rimouski.
CFIX FM 93. Vous allez en entendre parler. Partout au Québec, la parole est à vous. Pour participer à l'effet Normando, 1-866-790-9850 et sur le web.
Pourriez-vous vous passer d'un beau gazon vert? Notre invité est responsable de la mobilisation citoyenne et de l'engagement du public à la Fondation David Suzuki. Je vous le disais avant la pause, la Fondation part en croisade pour nous convaincre de la pertinence de modifier nos habitudes en matière de gestion de la pelouse. Alexandre Huette avec nous. Bonjour à vous Alexandre, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup de m'accueillir, c'est très apprécié.
Grand plaisir. Tout d'abord, à quoi vont ressembler les gazons du futur? Est-ce qu'on va être dans le synthétique ou ça va être un gazon sans pesticides? Enfin, à quoi ça peut ressembler?
Ben, j'espère pas que ça va être un espace synthétique, du moins. Mais je vous dirais, nous, dans la campagne Partage ta pelouse, c'est plus de repenser notre relation avec les arts gazonnés dans nos espaces publics et privés. Donc, on n'est pas du tout contre la pelouse, mais on dit ben, peut-être que la pelouse a peut-être un peu trop d'espace, un peu trop de place dans nos espaces publics et privés. Donc, une pelouse du futur, pour moi, ça serait, dans un monde idéal, ça serait, si vous avez 20 pieds carrés de pelouse, peut-être vous pouvez utiliser 5 pieds carrés pour planter des plantes locales ou ce qu'on appelle les plantes indigènes, qui sont super résilientes au climat local, qui nécessitent pas beaucoup d'entretien et qui aident énormément la biodiversité locale et les pollinisateurs. Donc, c'est trouver cet équilibre, justement, entre la pelouse, qui a quand même des bienfaits écologiques. Là, on préfère de loin la pelouse à des espaces goudronnés, c'est des aires d'activité et de sport, mais aussi de ramener un peu la nature dans nos espaces publics et privés.
Qu'est-ce qui vous fatigue à la Fondation David Suzuki avec le modèle de pelouse actuel? Qu'est-ce qui vous dérange?
C'est pas une question que ça nous dérange ou ça nous fatigue, c'est juste... Je pense qu'on parlait beaucoup d'éclipse solaire la semaine dernière, donc on a vu que les astres se sont alignés pour développer cette campagne parce qu'on a considéré qu'il y a beaucoup de mouvements populaires qui se sont multipliés d'un océan à l'autre sur notre territoire. Puis on a vu que, mettons, le mouvement du pissenlit au mois de mai ou bien justement de laisser vos feuilles cet automne, on a vu vraiment une intention, une volonté de la part de la population de réimaginer un peu la relation avec leurs espaces gazonnés. Puis on a vu plusieurs municipalités aussi emboîter le pas justement avec des réglementations qui sont plus favorables. On parle de tons différenciés, là, par exemple. Et je vous dirais, le moment là, clé où il y a eu un shift qui s'est opéré, c'est avec l'accord de Cumel-Montréal là, à la COP15, où on parlait plus de où est la place de la biodiversité locale, mais plus la question de comment faisons-nous cette place dans nos espaces. Donc, c'est pour ça qu'on a publié un rapport avec une cartographie et on a vu le potentiel de transformation qui est assez élevé. Mettons, si on parle de l'île de Montréal, là, par exemple, il y a 19% du territoire montréalais, c'est des espaces gazonnés, là, c'est 43 fois le parc Mont-Royal. Donc, on se dit, il y a le potentiel de transformation assez intéressant afin d'optimiser nos espaces devant nous et j'aime souvent le dire aussi en dessous de nos pieds. Donc, c'est un peu ça l'idée.
Mais la pelouse, c'est mauvais pour l'environnement? Je vais bien comprendre, là, où est-ce que vous situez?
La pelouse, il faut spécifier qu'elle a quand même certains bienfaits écologiques. Sauf que son seuil écologique en termes de biodiversité est assez faible. Fait que c'est pour ça que nous, on incite la population à juste transformer une partie de leur pelouse, justement parce qu'on a vu un déclin assez remarqué des pollinisateurs au cours des 20 dernières années. On parle aussi des papillons monarques où cette espèce est maintenant considérée en voie de danger. Donc, on veut vraiment donner toute la chance aux pollinisateurs et aux papillons monarques là, de reprendre un peu leur souffle.
OK. Donnez-nous des exemples très concrets. Alexandre, s'il vous plaît. Donc, le traditionnel gazon, la pelouse verte, là, mettons une grande surface, il y a juste du vert, il y a juste du beau gazon qu'on tond à, je sais pas, à toutes les 2-3 semaines, puis c'est bien beau, ça ressemble à un terrain de golf. Ça, vous dites, ça manque un petit peu de diversité. Alors, le gazon idéal, ce serait quoi? On plante, on installe toutes sortes de plantes, on plante des arbres, qu'est-ce que c'est exactement?
Ben ça serait peut-être un amalgame d'un peu de tout. Donc, ça serait aussi en fonction de nous, ce qui est super important, c'est que de s'informer puis de s'éduquer, puis à la fondation de ce site Internet-là, de quelles sont les plantes indigènes, les plantes locales là, qu'on pourrait planter. Mettons, on va avoir des plantes différentes lorsqu'on est à Montréal versus quand on est à Sherbrooke ou à Saint-Jérôme. Fait que pour moi, là, l'objectif le plus important, c'est les plantes indigènes, les plantes locales qui sont plus résilientes, et aussi de faire une combinaison avec peut-être des petits arbustes, des arbres. Donc, tu sais, il y a une énorme variété de possibilités. Là, je ne voulais pas vous dire, il faut absolument planter tel type de plante. C'est vraiment en fonction du climat local là, qui est super intéressant. Puis aussi, on a reçu nous des commentaires en disant, mais oui, mais les pissenlits, pour moi, je suis allergique, nanana. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a tellement une variété que vous pouvez transformer votre pelouse en fonction de vos allergies à vous. Donc, il y a vraiment une énorme variété, un potentiel énorme. Là. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là.
OK. Il y a un auditeur qui traduit assez bien l'objectif que vous visez. Il s'appelle Yann. Il vit dans un quartier, il y a de très grosses maisons. Évidemment, tout le monde a de très beaux gazons. Ouais. Cependant, depuis plusieurs années, j'ai cessé tous les traitements et l'arrosage de la pelouse. Cependant, afin de conserver un environnement humide, il a commencé à semer 10 variétés d'herbes différentes, incluant du trèfle. Conséquence, on n'a plus de problème d'insectes, vert blanc. On n'a plus besoin de traiter avec des produits chimiques. On a même constaté que les oiseaux reviennent sur notre terrain. Le terrain est sain sain pour tout le monde. Ça, c'est l'exemple que vous... c'est un exemple idéal, là. C'est ce que vous recherchez